Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 30 ans, le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie décrétaient leur indépendance, marquant le début de la dislocation de la Yougoslavie. Nous sommes en compagnie de Alexis Trout, géopolitologue spécialiste des Balkans, auteur des livres « Géopolitique de la Serbie » et « Balkans, un éclatement programmé, avenir, Balkans, la désintégration ». Bonjour Alexis Trout.
Bonjour Philippe.
Tout d'abord, la Yougoslavie, c'est un pays qui est né en 1918 du démantèlement de l'Empire austro-hongrois, un pays fait de peuples fort différents les uns des autres, qui est de 1918 à l'invasion par les forces de l'Axe en 1941, une monarchie. Pourquoi ce pays a-t-il été créé ?
Alors en fait, c'est une très bonne question, il faut revenir à la genèse. La Yougoslavie, en fait, c'est un projet français. En 1918, on sort d'une guerre où 500 000 soldats français, serbes et russes ont combattu ensemble dans l'armée française d'Orient. Et croyez-moi, en province, en France, on s'en souvient encore. Et en Serbie encore plus. Et donc, si vous voulez, la Serbie, qui était ce pays indépendant au XIXe siècle, a porté un projet qui a été soutenu par la France. L'Italie ou l'Angleterre n'en voulaient pas du tout. Et donc, la France a mis en place une monarchie avec une dynastie serbe, celle des Karadjordjevic, un modèle français avec des départements, même les frontières ont été faites par les Français, comme le géographe Ernest Denis. Et donc, c'est la France qui a vraiment créé ce pays parce qu'elle avait intérêt, évidemment, à bloquer les empires centraux dans les années 20 et 30.
Alors justement, en 1941, le pays est démantelé une première fois, puisqu'une partie de la Slovénie est annexée par l'Allemagne, une autre par l'Italie, le Kosovo est annexé par l'Albanie, la Macédoine par la Bulgarie, la Serbie est occupée par l'Allemagne et la Croatie par l'Allemagne et l'Italie. Bref, le premier démantèlement de la Yougoslavie a eu lieu pile 50 ans avant 1991, non ?
Exactement. Et d'ailleurs, lorsque les guerres ont commencé en 1991, chaque partie se souvenait très bien des affres de la Seconde Guerre, puisque le système communiste de 1945 à 1991 a tout mis sous le tapis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1941 et 1944 ? Eh bien, c'est la puissance allemande qui, au printemps 1941, envahit la Yougoslavie pour arriver en Grèce. Elle est accueillie à bras ouverts par le régime croate Ustaši à Zagreb.
Mais le régime d'Ante Pavelić.
Régime d'Ante Pavelić, hein, clérico-fasciste. Mais à Belgrade, eh bien, c'est la politique de la terre brûlée. Les Serbes ont décidé de se battre, comme ils l'ont fait toujours face à l'envahisseur. Et ils vont, derrière le général Draža Mihailović, eh bien, former une résistance qui est d'abord royaliste et ensuite communiste, les Tchétniques. Et donc, ils vont se battre avec acharnement, sauf qu'ils ont face à eux au moins trois ennemis. Je l'ai dit, les Croates Ustaši, qui vont créer Jasenovac, c'est l'Auschwitz des Balkans. À Jasenovac, il y a eu au moins 300 000 morts exécutés à coups de pioche ou de pierre par les Croates Ustaši. Certains historiens disent jusqu'à 700 000, mais au moins 300 000 morts. Il y a en face d'eux aussi, il ne faut pas l'oublier, le Balikom Betar, un groupe albanais lié à l'Allemagne nazie, et les fameux SS Anjar, hein, la section SS Anjar, bosniaque, musulmane, qui a fait allégeance à l'Allemagne nazie. Et tout ça, on va s'en rappeler en 1991, quand la guerre va commencer.
Absolument. Donc, à la fin de la guerre, un homme réunifie le pays, Josip Broz, plus connu sous le nom de Tito. C'est un Croate qui a combattu les occupants et le régime Ustaši. Tito qui disait, je cite, « La Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti. » Il réunifie le pays grâce à la dictature qu'il met en place, où les peuples yougoslaves étaient prêts à revivre ensemble à l'époque.
Moi, depuis 30 ans, j'essaye de démontrer que, contrairement à l'idée partagée par une certaine classe intellectuelle en France et qui a intérêt à le faire, Tito, contrairement à ce qu'il avait dit au début, fraternité, unité, au contraire, a joué sur les divisions et divisé pour mieux régner. Qu'est-ce qu'il fait ? Il impose une dictature de type stalinien dès 1945, ce qui fait qu'en 1948 déjà, tous les gens qui ont fait allégeance à Staline et qui lui ont tourné le dos, eh bien, il va les envoyer simplement, purement et simplement, dans le premier camp, si vous voulez, à la vietnamienne, sur une île, l'île nue, Goliotok, qui a duré 8 ans. Tous les cadres dirigeants du parti plus ou moins importants sont passés par Goliotok, mais aussi tous les dignitaires religieux. Et donc, Vlad Edapchevitch, par exemple, un des principaux opposants à Tito, m'a dit, en 98, quand j'ai fait un documentaire sur Goliotok, il m'a dit, mais déjà, la Yougoslavie était morte, puisque Tito a joué sur les divisions. Et ces divisions, il va les accentuer. Il crée une église orthodoxe complètement fictive, l'église de Macédoine, et surtout, il crée la nation musulmane avec un M majuscule. Et c'est ça qui a créé le début des problèmes à partir des années 1960.
Alors justement, le 9 novembre 89, le mur de Berlin tombe. 13 mois plus tard, le 23 décembre 90, 88,5% des Slovènes votent pour leur indépendance. Le 2 mai 91, 93,24% des Croates votent pour l'indépendance. Comment les choses ont-elles pu aller aussi vite, Alexis Trude ?
Alors en fait, elles se sont passées aussi vite. Il faut se souvenir, il faut que les auditeurs se souviennent que la Yougoslavie, c'était le pays bien avant la Pologne, la Tchécoslovaquie, qui devait rentrer dans la défunte CEE à la fin des années 80. Donc c'était un pays, si vous voulez, qui était le modèle des pays de l'Est. Or, ce que Tito n'avait pas vu, c'est que l'émigration croate, par exemple, préparait déjà la séparation. Pourquoi ? Parce que dans le système titiste, il y avait le droit à la sécession depuis 1945. Et donc cette émigration croate préparait la sécession, soutenue par l'Allemagne. Et on le sait maintenant, tous les historiens en ont parlé, il y a eu le fameux plan Genscher de 1988.
Hans-Dietrich Genscher, qui était ministre des Affaires étrangères allemand à l'époque.
Exactement, qui prévoyait purement et simplement la désintégration de la Yougoslavie. Et il était soutenu en ça par les États-Unis, qui eux-mêmes, c'est le rapport de la CIA de 1989, qui prévoyait, à travers un processus, si vous voulez, de démocratie participative, eh bien, l'émiettement de la Yougoslavie.
Alors justement, comment le pouvoir central à Belgrade et les autres républiques ont réagi à ces deux indépendances ?
Alors, le pouvoir central à Belgrade a mal réagi. Il n'a pas compris l'époque dans laquelle il était. C'était Slobodan Milošević, qui, contrairement à ce qu'on dit, n'était pas nationaliste. Hein, c'était un véritable communiste, au contraire. Ses derniers discours le prouvent. Mais justement, il n'a pas compris que le monde avait changé. Lorsque la Slovénie tombe, il se dit, il n'y a pas de Serbes en Slovénie, donc je laisse tomber.
Oui.
Aucun pays n'aurait fait ça à sa place. Par contre, lorsque la Croatie se soulève, eh bien, ses souvenirs reviennent très vite, ces souvenirs refoulés dont on a parlé tout à l'heure. La population serbe de Croatie, qui était quand même plus de 15% en Krajina.
Sur Krajina.
Ben oui, qui était là depuis le 15e siècle, eh bien, a eu peur. Dès qu'elle a vu les drapeaux à damier rouge et blanc qui lui rappelaient le régime Ustaši, elle était dans le régime, dans la constitution croate, reléguée en tant que citoyenne de seconde zone. Et donc, ils font des barricades. Et en Krajina, dans l'antenne de Krajina, ils vont se défendre contre la police croate, on le sait maintenant, qui a été entièrement formée par des vétérans américains. Et donc, Milošević, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer des armes, sauf que comme lui, il est communiste, et comme les Serbes de Krajina sont plutôt royalistes, il va les lâcher 2 ans après. Et donc, il a fait le pire qui puisse arriver, c'est-à-dire, il envoie des armes, mais sans véritable soutien politique.
Ah oui. Et la communauté internationale, en particulier les pays européens, comment réagissent-ils ?
Alors, les pays européens, on s'en souvient encore, hein, l'Allemagne prend fait et cause pour la Croatie. L'Angleterre...
Vieille alliance.
Mais oui, exactement. L'Angleterre, elle joue le jeu toujours perfide, de la perfide Albion, c'est-à-dire, c'est mon ami Jacques Hogard qui a vu ses soldats britanniques soutenir des milices locales, même encore jusqu'en 1999. Et la France, elle est coincée. Pourquoi ? François Mitterrand, dans mon dernier livre, j'en ai beaucoup parlé, François Mitterrand se souvenait que dans les camps d'internement au début de la Seconde Guerre mondiale, il avait eu des amis serbes et il était très fidèle en amitié et il l'a dit, jusqu'à la fin, jamais je ne ferai quelque chose contre la Serbie.
Et
si vous voulez, il était déjà pris au piège, puisque derrière lui, il y avait déjà ce mouvement défendu par Bernard Lévy, qui était un mouvement droit de l'homiste, qui voulait au contraire bombarder les Serbes dès le début, dès 1991. Donc la France est vraiment prise entre deux feux. Mais ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que déjà, il y a des acteurs beaucoup plus importants encore. La Russie est moribonde, mais par contre, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite jouent leur jeu déjà. L'Arabie Saoudite soutient les fameux Moudjahidine en Bosnie, et ce qui a donné naissance aux premiers émirats en Europe, qui ont donné le clan de Roubaix en 1999, etc., etc. Hein, la genèse du djihadisme en Europe, c'est la Bosnie.
Dernière question, le chef de l'armée yougoslave, Veljko Tadijevic, de père serbe et de mère croate, a déclaré le 12 mars 91, je cite, « Un plan insidieux a été élaboré pour détruire la Yougoslavie. La première étape est la guerre civile, la deuxième est l'intervention étrangère. Des régimes fantoches seront ensuite mis en place dans toute la Yougoslavie. Quand on voit ce qui s'est passé, a-t-il vu juste ?»
Oui, il a tout à fait vu juste. C'est vrai qu'on peut parler, nous, en géopolitique, on parle d'État failli ou d'État fantoche. Vous avez la Macédoine du Nord qui est tiraillée sans cesse entre les irrédentismes bulgares et grecs. Les Grecs ont reconnu le nom de la Macédoine du Nord très tardivement. Et puis, à l'intérieur, tiraillée entre une forte minorité albanaise et puis la majorité macédonienne. Au Monténégro, il y a un régime qui a été jusqu'à l'an dernier un des derniers régimes communistes, celui de M. Djukanovic, mais qui a maille à partir avec la forte minorité serbe. Et puis, pire que ça, la Bosnie-Herzégovine est un État bicéphale, séparé en deux, entre deux États qui se tournent le dos. D'un côté, la Fédération croate-musulmane, dirigée par le fameux SDA, qui est le successeur des SS Sandjar et... aujourd'hui de ces djihadistes des années 1990. Et en face, la République serbe de Bosnie qui essaye, vaille que vaille, entre Croatie et Serbie, de survivre. Encore pire, et là le comble, c'est le Kosovo. Le Kosovo qui est l'exemple même de la faillite du système international, du fameux nation building, le rêve d'un pays multiethnique qui ne vit que dans la pauvreté, hein, le pays le plus pauvre d'Europe, et le plus fracturé, ouais. Si vous voulez.
Merci beaucoup Alexis Trout, géopolitologue spécialiste des Balkans, auteur des livres Géopolitique de la Serbie, Balkans, un éclatement programmé et Avenir, Balkans, la désintégration. C'était il y a 30 ans le début de la dislocation de la Yougoslavie. Le menu de la prochaine demi-heure, on fera le point sur la première étape du Tour de France avec Vincent Barthaud juste avant, la sélection musicale de Bruno Dubois et le livre du dimanche, Béhéri, les formes de l'ombre de Philippe de Paris.